si on voit le futur, ça veut dire que la personne dans le futur, quand elle arrivera à l'événement que nous voyons, il n'aura pas de libre arbitre. Et c'est complètement faux. Une fois, il a mis les tefs comme ça, un stand de Chabad. Cette mitzvah-là, elle vaut infini. Et tout le mal qu'il a fait, il vaut 80 millions d'années en enfer. Plus quelqu'un est sadique, plus il monte haut. Plus tu montes haut... Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yehuda ben Victoria, Zechon Levacha, de mémoire bénie. La question de Solal.
Si Dieu avait la Torah avant tout, la création du monde, etc., jusqu'au don de la Torah, où se trouve le libre arbitre, par exemple, de nos patriarches, de Moshe, Rabbeinu?
Ok, donc c'est pas une question que beaucoup de gens posent. On te la pose sur la Torah. Donc c'est clair que la Torah a été donnée en 2448. De la création à Moshe Rabbeinu, au peuple d'Israël. D'ailleurs, pas entièrement, que la partie qui va depuis la création, le reste de la création, jusqu'au moment présent, le don de la Torah au mont Sinaï. Je lui pose la question, cette Torah, donc Dieu la possédait avant qu'elle soit donnée, elle existait depuis toujours chez Hachem, parce que la Torah, c'est la pensée de Dieu, et Dieu est éternel, et Dieu a toujours été, et il a toujours pensé, donc il avait déjà pensé la Torah. Donc dès lors, lorsqu'on voit que par exemple Esav, le jour où Abraham est décédé, il a fait 5 péchés graves. Il a assassiné, il a fait de l'adultère, beaucoup de choses graves. Il n'y a pas le choix. C'était déjà écrit dans la Torah. Donc où est le libre arbitre? Pourquoi on appelle Esav à rachat? Esav, le rachat, le mécréant. Alors, peut-être qu'il est mécréant parce qu'il a fait des actes mécréants, mais ce n'est pas de sa faute, en tout cas. Or, il est clair que la Torah considère que oui, il y a un libre arbitre. Et qu'un mécréant, il est mécréant et il devra réparer ses péchés au moyen de souffrance. Et un sadique, quelqu'un qui est bien, au contraire, pour tout acte positif qu'il fait, il reçoit, enfin, même un rachat qui fait un acte positif, il reçoit pour cela un mérite. Donc on voit qu'il y a libre arbitre. Il n'y a aucune logique à ce qu'on donne un mérite ou une souffrance à quelqu'un qui fait ou ne fait pas une ordonnance divine s'il n'a aucun choix. On est d'accord là-dessus? C'est ça la question. Donc on peut étendre même pas seulement à la question de la Torah, mais à nous aujourd'hui, d'accord? Moi maintenant, ok, si tout est écrit, Dieu il connaît, Dieu voit tout. Alors il n'est pas écrit dans la Torah mon histoire, ni ton histoire, d'accord? C'est pas encore écrit dans la Torah. Mais, là que ça se peut qu'en signe déjà, tout est marqué, d'accord? Toute l'histoire, on a vu par les codes, tous on pourrait trouver des trucs extraordinaires. On va dire au moins dans le sens simple, notre histoire à toi et à moi n'est pas écrite. Mais Dieu la connaît, Dieu voit le futur. Si on dit que Dieu ne peut pas voir le futur, c'est pas Dieu. Donc, si Dieu voit le futur, maintenant moi je me trouve devant une épreuve, d'accord? Je peux faire soit en fonction de ce que Dieu m'a dit, ou soit en fonction de ce que me propose, avec de façon alléchante, mon âme animale, d'accord? Qui est très forte. Je pense aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est forte, cette âme animale? Ils sont bêtes, hein, c'est fou. Surtout quand l'hiver vient, c'est plus dur de se lever le matin. Que c'est bon de rester encore une minute au lit, d'accord? Très alléchante. Alors, je dois maintenant, j'ai le choix de faire le bien ou le mal. Si je fais le bien, j'ai le mitzvah, donc j'ai un mérite. Sinon, le contraire. Si je me dis que Dieu voit tout, alors où est mon libre arbitre? La réponse est extrêmement simple. Les gens se trompent. Et les gens croient que si on voit le futur, alors ce futur est déjà, on va dire comment? Si on voit le futur, ça veut dire que la personne dans le futur, quand elle arrivera à l'événement que nous voyons, il n'aura pas de libre arbitre. Et c'est complètement faux. Et je vais donner un exemple, et là tout le monde comprendra. Dans ma jeunesse, il y avait à la radio française, il y avait une dame qui parlait tous les matins, elle s'appelait Madame Soleil. D'accord? Bon, donc elle regardait l'horoscope, machin, elle racontait. Bon, alors, on va dire qu'il y a des... Je ne sais pas, on appelle cela des femmes qui hésitent, ou les tarots, ou dans le café, ou dans les cartes, ou dans les boules de cristal, d'accord? Et voient le futur. Ça devrait exister, admettons que ça existe. Attends, je vais la voir, et je lui demande de me dire, je vais vérifier si c'est la raison ou pas. Quand je vais sortir de chez vous, j'aurai le choix d'aller ou à gauche ou à droite. S'il vous plaît, écrivez-moi sur un papier maintenant où j'irai, et j'aurai que vraiment vous êtes quelqu'un de digne de confiance. Elle regarde, elle écrit, elle me donne le papier fermé dans une enveloppe, hop, je sors, et je me dis gauche ou droite, droite ou gauche, allez, je vais à droite. J'ouvre le papier, droite. Donc elle a vu que j'allais à droite. Maintenant, qui a décidé d'aller à droite? Moi ou elle? Est-ce qu'on pourrait croire qu'elle a décidé que j'aille à droite? Elle? Impossible. Ce n'est pas elle qui décide. C'est moi qui décide. Je suis sorti. Je ne sais pas où j'irai. J'avais le choix. J'ai décidé, je vais à droite. Donc, elle a une faculté de voir à l'avance, pas le futur. C'est oui le futur. Mais qu'est-ce que je vais choisir dans le futur? C'est comme ça qu'il faut dire. Elle voit à l'avance qu'est-ce que je vais choisir dans le futur. Mais qui va choisir? Moi. Donc le fait qu'elle voie ne remet pas du tout en cause mon libre arbitre. C'est moi dans mon libre arbitre total qui ai décidé que j'allais à droite. Donc elle a la faculté de voir. Ça c'est... Il faut savoir qu'à propos de cette question, Rambam dit que la réponse à cette question, elle est plus grande que l'océan. Sur place, il y avait un grand rabbin à l'époque du Rambam, qui habitait Posquières. Posquières, je ne sais plus si c'est en Espagne actuelle ou en France. C'est en France, en Espagne? Hein? En Espagne. C'est le Rabbi Avraham ben David. Et lui, il donne la réponse que je vous donne maintenant. Il dit, le fait de voir ne remet pas en question la valeur du libre-arbitre. Parce que ce n'est pas parce que tu vois que tu décides. C'est le type sur place qui va décider. Simplement, Dieu voit à l'avance qu'est-ce que tu vas décider. Donc, il le sait. C'est clair? C'est bon comme réponse? Ça vous va? Donc Dieu, dans toute la Torah, a écrit, avait toute la Torah, et ça va exactement ce qui allait se passer. Néanmoins, ça n'affecte en rien le libre arbitre de chacun des personnages qui est cité dans la Torah. La question qui, oui, se pose, quand on dit ça, c'est une question qui est plus difficile, c'est que si Dieu voit, prenons le cas de Esav, d'accord? Esav, qui était une très très grande âme, il devait être plus haut que Yaakov Avinu. Et lui, il décide de faire le mal. Et les conséquences de ce mal sont terribles jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Surtout le peuple d'Israël a extrêmement souffert de Esav. Esav, c'est le patriarche du monde occidental, d'accord? La chrétienté, etc. C'est terrible ce qu'on a souffert. Et donc, tout cela provient de Esav. Donc, Esav, le pauvre, il va en enfer. Le pauvre ou pas le pauvre, en tout cas, il est en enfer pour pas mal de millions d'années. La question, si Dieu voit à l'avance que le type, il va rater son épreuve. N'importe quel, laisse Esav, n'importe quel bon juif, il est né, tout ça. Et il avait un gros Esserara, et après, il a commencé à faire des péchés, des péchés, des péchés, des péchés, des péchés, des péchés, des péchés. Il se ramasse quelques bons millions d'années en enfer. À quoi ça sert? Pourquoi Dieu, tu l'as amené sur terre? Tu vois à l'avance qu'il va rater, alors tu ne viens pas sur terre, terminé. C'est, a priori, il semblerait que c'est sadique, pas de sadique, c'est sadique, c'est du sadisme, d'accord, que de faire naître quelqu'un sur terre, sachant à l'avance qu'il va complètement se planter, et il va se planter, et après il ira des millions d'années en enfer. À quoi ça rime de le laisser venir sur terre? La réponse aussi là, elle est extrêmement simple. Il faut comprendre que tout dans le monde est fini. Tout a une fin. Il va de soi que ce ver jetable, il a une fin proche. L'espérance de vie d'un ver jetable comme ça, déjà utilisé, c'est moins de 24 heures. Une table, une espérance de vie, elle est de 10 à 20 ans. Un bâtiment, 2-3 siècles. Nous, si on a un siècle, on est déjà content. D'accord? L'univers. D'après les sages israéliens, en l'an 6000, quick, il n'y a plus rien. D'après les astrophysiciens, dans quelques milliards d'années ou millions d'années, le monde aussi, il y a un big crunch, tout fini, terminé. Tout s'arrête, tout est fini. Et une seule chose qui est infinie, Hachem. Et ce qui est branché avec Hachem. Quand quelqu'un fait une mitzvah, une ordonnance de Dieu, dans l'intention de faire ce que Dieu a demandé, il se branche avec Hachem. Il reçoit en lui, comme ça dit la mystique juive, il reçoit en lui des parties divines qui le rendent éternel. Donc le beau jour, un beau jour, il meurt, c'est-à-dire il enlève, on lui enlève son habit de peau, mais lui il reste. Et il profitera de tous les bienfaits qu'il a fait ici sur terre, toutes les mitzvot, de façon éternelle. Donc, la seule chose qui va rester, c'est Dieu, et ce qui est branché avec Dieu. Donc le mal, quelqu'un il fait des millions de péchés, d'accord? Un assassin, un proxénète, tout ce que tu veux, d'accord? Un type terrible. Ok, il va aller en enfer. Mais un beau jour, il sort de l'enfer. La vérité, c'est pas tout à fait clair. Il y a une marloquette là-dessus, une divergence d'opinion. La Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, elle cite beaucoup de personnes que c'est marqué qui ne sont pas de l'enfer. enfin, qui sont jugés pour des générations et générations. Et Maïmonide, il les cite dans le troisième chapitre des lois de Tchouva, là-bas, il cite 24 types de personnes, que c'est marqué, qu'il dit comme ça, qui sont jugés en enfer pour des générations et générations, non, pour l'éternité. Leur âme, pour les mondes et les mondes. Ça veut dire pour toujours. Ça veut dire que le type, il rentre là-bas, un beau jour, c'est écrit que le ministre de l'enfer, il ferme la boîte, terminé, c'est terminé, l'histoire est terminée, il n'y a plus d'enfer, tout le monde a purgé, puis encore une salle là-bas où il continue à purger pour l'éternité. C'est terrible, d'accord? Terrible. Le plus grand kabbaliste ashkénaze, s'appelle le Rav Eliashiv, le dernier s'appelle le Rav Eliashiv. Cette salle, c'est le grand-père du Rav Eliashiv, le grand décisionnaire que nous avons connu, le grand de la génération qui est décédé il y a une quinzaine d'années. D'accord. Son grand-père s'appelle le Rav Shlomo Haikel Eliashiv, qui a écrit des livres de Kabbalah qui s'appellent Leshem Shmo Vahlama. On l'appelle le Leshem, d'accord. Plus grand kabbaliste ashkénaze. Lui, il écrit là-bas la chose suivante. Il dit comme ça, étant donné que nous avons en nous une étincelle divine, il est impossible, à la fin de toute l'histoire, donc dans quelques années, avant l'an 6000, ce monde-ci disparaît, on passe dans un autre monde, on monte comme ça, parce qu'il y a après une unification totale avec Dieu. Tout va se réunir avec Hachem. Et il dit comme ça, il est impossible qu'il y ait une partie d'âme divine de quelqu'un qui ne va pas participer à cette unification. Parce que Dieu, il est un, il est total, donc ce n'est pas possible qu'il manque une partie. Donc à la fin, même ceux que Maïmonide dit qui vont rester en enfer pour l'éternité, c'est une éternité relative. Éternité par rapport à ce monde-ci. Mais ce n'est pas une vraie éternité, parce qu'au bout d'un moment aussi, ils vont quitter l'enfer et se joignent avec Hachem, s'unissent avec Hachem. Dès lors, quand quelqu'un va faire des millions de millions de millions de péchés, il va rester des millions de millions de millions d'années dans l'enfer. Mais ce million de millions d'années, il est fini. On va dire qu'il a été puni à 80 millions d'années en enfer. Au bout de 80 millions, ok, fini, on sort. Et là, il va s'unir avec Hachem, et là, c'est éternel. Alors, qu'est-ce qu'il aura dans ce monde éternel? Il aura le mérite de sa mitzvot. Alors, ce gros rachat, ce gros mécréant qui a fait tellement de péchés, il a bien fait au moins une mitzvah dans sa vie. Une fois, il a mis les tefs comme ça à un stand de Chabad. Une fois, il a donné un peu d'argent en tzedaka. Une fois, il a rendu un service à une grand-mère à traverser la rue. Il a fait des mitzvot. Ça n'existe pas quelque chose qui vaut qu'une mitzvot. Cette mitzvah-là, elle vaut infini. Et tout le mal qu'il a fait, il vaut 80 millions d'années en enfer. Maintenant, combien ça vaut 80 millions par rapport à l'infini? Zéro. Rien. Donc Hachem veut quand même qu'une personne, sachant qu'il va quand même être un mécréant et qu'il est rendu des millions d'années en enfer, il le fait naître. Parce qu'il fera au moins une mitzvah. Pas une, on fait des milliers de mitzvot. D'accord? Donc il aura part à l'éternité. C'est pour ça que la question ne se pose pas. Pourquoi Dieu le fait naître, sachant qu'il sera un rachat, un mécréant, il sera en enfer? Oui, il sera en enfer, mais après moi je lui donne aussi beaucoup. Je veux un enfer qui est fini, mais je lui donne aussi l'infini. Donc il n'y a aucune personne, il ne faut pas la peine que Dieu l'ait créé. En cela, on répond aux deux questions. Un, comment se fait-il, si Dieu voit tout, comment se fait-il que j'ai un libre arbitre? Réponse, le fait qu'il voie n'affecte en rien à mon libre arbitre, je suis complètement libre de choisir. Et deux, bien que Dieu sache à l'avance que quelqu'un sera un grand mécréant qui va payer pour cela, il aura beaucoup de souffrance, néanmoins, ça vaut la peine de le faire naître pour qu'il puisse après jouir de Dieu durant l'éternité. Des questions là-dessus, messieurs?
Des fois, on observe dans la Torah que Dieu, il aide beaucoup les gadol, etc., les gdolim. Et est-ce qu'on peut les gdolim, enfin, je sais pas, par exemple, même dans le positif ou dans le négatif, par exemple, Shaoul, il lui avait mis un esprit de folie à un moment donné.
Ouais.
Donc ça l'a aussi influencé dans le négatif, et après il a fait d'autres bêtises, etc.
Ouais.
Donc est-ce que vraiment il a un libre arbitre, ou est-ce que c'est un peu minimisé, quoi?
Je n'ai pas très bien compris la question, mais je vais répondre à ce que je crois avoir compris. Très souvent, la punition ou la récompense de quelqu'un, c'est qu'on va l'aider à aller dans le sens dans lequel il veut aller. Quelqu'un qui veut se sanctifier, alors c'est marqué qu'on l'aide. Celui qui veut s'impurifier, on va pas l'aider, mais on ouvre la porte. Maintenant, Hachem, il a vu que Shaoul, il se comportait mal, alors il lui a donné une folie qui l'a rendu encore plus mal. Mais c'était le résultat du mal qu'il a fait. Comme avec Pharaon. Pharaon, Dieu l'amène par le biais de Moïse, 10 plaies. Alors, c'est écrit que les 5 premières plaies, Pharaon avait le choix de libérer le peuple d'Israël ou pas. Après, Dieu a endurci son corps, il ne pouvait plus. On pose la question, alors pourquoi est-ce que tu le punis? Je ne punis pas parce que maintenant il a endurci son corps. La punition est qu'à cause des 5 premières fois où lui, dans son libre arbitre, il a endurci son corps, moi je l'ai mis dans une situation où il ne pouvait plus faire marche arrière et continuer à refuser que le peuple juif sorte. C'est moi qui l'obligeais en endurcissant son corps de façon artificielle. C'est la punition de ce qu'il a fait avant. Mais jamais Dieu va faire à quelqu'un le mal de façon artificielle pour rien ou le bien pour rien.
D'un autre côté, c'est-à-dire qu'après les 5 dernières plaies, il n'avait plus libre arbitre.
Mais c'est sa punition. C'est sa punition. Quelqu'un va punir. Dieu envoie Hashem, il envoie une folie à quelqu'un. D'accord, à cause de cette folie, il ne peut plus faire la mitzvah, il ne peut pas mettre de tefillin, il ne peut pas étudier la Torah. D'accord. Alors, quelque part, c'est une punition qu'il ne peut pas faire des mitzvot. Tu me dis, mais c'est pas de sa faute. Oui, c'est pas de sa faute. Mais pourquoi Dieu lui envoie une chose pareille? Je n'aime pas le mot punition, parce que des fois, en tout cas, c'est une souffrance. D'accord, des fois, c'est des souffrances. Les souffrances, ça répare, ça donne énormément. Les grands sadiques, ils m'ont aussi des souffrances. Le rabbin Sotaba Shaoul, le pauvre, il a eu donc en 83, il a eu un AVC. Et disons, il était très, 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 très limité. Alors, une fois, il a pris l'avion. Lui et le rabbin Yosef sont partis à Panama. Et le rabbin Yosef, durant tout le chemin, c'est 12, 13 heures de vol, d'accord, il étudie comme ça. Le rabbin Yosef s'est mis à pleurer. J'aimerais tellement pouvoir étudier comme il fait mon ami, le Ovadia Yosef. Alors, Dieu a voulu que le Rabbi Sion souffre, d'accord. Grâce à sa souffrance, des milliers de gens ont été sauvés de maladies. Il a dit, si je ne souffre pas, d'autres vont souffrir. Il prenait sur lui, et il faisait des miracles extraordinaires. Mais c'est une souffrance, d'accord. Donc, maintenant, si quelqu'un, à cause d'une souffrance que Dieu a décrétée pour X, Y ou Z raison, il ne peut pas faire de mitzvot. Le Rabbi Sion ne peut pas étudier la Torah. Alors, c'est clair que ça fait partie de la souffrance. Il ne peut pas mettre de filine, il ne peut pas faire des choses qu'il aurait pu faire. Ça fait partie de la souffrance que Dieu a voulu qu'il reçoive. Maintenant, au début de ta question que je n'ai toujours pas très bien compris, tu as dit que Dieu était plus cool avec les grands. C'est le contraire. Avec les grands, il est beaucoup plus. C'est marqué que Dieu, avec les sadikim, il est précis comme la largeur d'un cheveu. Pointilleux. Pourquoi? Parce que dans l'âme à bas, un sadikim monte plus haut. Plus quelqu'un est sadique, plus il monte haut. Plus tu montes haut, plus là-bas, la pureté qu'on exige, elle est grande. Donc on est beaucoup plus dur avec toi. Il faut que ça soit super bien. Soit qu'on voit des fois des sadikim qui étaient des fois, ils vivaient il y a 2000 ans. Ils reviennent ici des fois en Gilgoul, en réincarnation, pour réparer un petit truc, parce qu'ils sont montés pendant 2000 ans seulement. Tu arrives à un niveau tellement haut de pureté que là, hein, ils n'avaient plus. Alors il fallait qu'ils reviennent sur Terre pour réparer encore au niveau où ils sont. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Va'amen.